J'avais fait une petite série sur la vérité. J'aurais bien aimé continuer, mais j'ai pas été amené vers ça. Donc voilà, vous allez voir que c'est pas très très différent en fait. Hein. Enfin, ça parle peut-être pas de vérité directement avec le mot vérité, mais je pense que ça revient au même. Après, ça reflète un peu ce qui est dans mon cœur de chercher plus le Seigneur, de chercher plus la vérité du coup. Alors c'est juste qu'au lieu d'étudier un passage précis où c'est écrit la vérité dedans, bah, voilà, on n'aura pas un passage très précis aujourd'hui. Même si je vais démarrer du psaume 42. Mais voilà, ce sera peut-être un peu moins textuel que d'habitude. Mais voilà, ça change, c'est tout. C'est ce que le Seigneur y a mis sur mon cœur. Je veux juste aussi vous. Alors, ce sera peut-être un peu bazar, hein, parce que c'est un peu le bazar sur mon cœur aussi, pour mettre les choses dans l'ordre. C'est des choses qui sont encore en cours dans ma vie. Donc voilà, je vous les donne telles quelles. Et je pense que si le Seigneur, il m'apprend des choses, il apprendra des choses à d'autres personnes aussi. C'est partiellement inspiré de mes lectures de vacances, hein, forcément. Dont l'excellent livre À la poursuite de Dieu de, alors je sais plus c'est quoi ses prénoms, c'est A.W. et Tozer. C'est des vieilles lectures, hein, c'est toujours très très bon. C'est un pasteur donc qui a été auteur aussi parce qu'il a beaucoup écrit. Hein. Tozer, il a écrit il était entre les années tout début des années 1900 en fait. Il est né je crois tout à la fin des 1800 et il est décédé dans les années 60 je crois. 1900, hein, du coup, je précise, qu'on n'est pas dans notre siècle à nous. Je peux que vous recommander son livre, hein, À la poursuite de Dieu. C'est court, ça fait 70 pages, donc vraiment, ça se lit super bien, il y a rien d'exceptionnellement compliqué. C'est dans le domaine public, si je me trompe pas, donc moi, je l'ai récupéré gratuitement. Après, j'ai une liseuse, donc c'est plus facile pour lire à l'écran. Mais voilà, si vous avez le moyen de le trouver, il est vraiment super bien. Et en fait, ça fait suite au témoignage de Rhys Howells. Je vous ai déjà bien bassiné avec ça. Hein, mais voilà, moi, il m'a profondément travaillé. Ça continue. Et là, c'est presque une. Voilà, Howells, c'était un cas particulier. On va dire que c'était un exemple. Et derrière, Tozer, dans ce livre-là, c'est presque une généralisation, quoi, à expliquer que, voilà, on a chacun notre travail à faire pour aller dans le même sens, pour connaître Dieu. Et donc, il est peut-être un petit peu plus, comment je vais dire, systématique, voilà, il y a une forme de démarche, mais c'est bien parce que ça nous guide, ça nous montre vers quoi on peut réfléchir dans notre vie pour avancer vers le Seigneur. Alors, c'est comme toutes les longues lectures. Bon, je vais vous lire tout le psaume 42 parce qu'il n'est pas très long en fait. Hein, mais il n'est pas très long, mais en même temps, sur une diapo, c'est contraint. Donc voilà. Les versets qui m'intéressent, c'est principalement les premiers. Mais comme il n'est pas très long, j'aime bien le lire en entier. Donc, psaume 42. Hein. Au chef des chantres, des chantres cantiques des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse: Où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'abattus, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut. Et mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse: Où est ton Dieu? Pourquoi t'abattus, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Voilà. Le message, ça part plutôt de comme une biche soupire après des courants d'eau, donc le début, hein, soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mais quand on regarde le reste, en fait, ça colle aussi avec le message quelque part. C'est-à-dire que il y a l'idée que ça doit être dans notre cœur, en fait. Notre vie avec le Seigneur, elle doit être dans notre cœur et pas que là-dedans, que dans la tête. Parce que Voilà, on peut être d'accord avec ce qui est écrit dans la Bible d'un point de vue doctrine, voilà, on peut être d'accord avec tout un tas de choses, mais là on voit, alors les fils de Corée, on ne sait pas qui l'a écrit, hein, si c'était un des fils, s'ils l'ont écrit en commun, bon voilà, mais c'est tout à fait personnel, hein, parce que c'est je, moi, me, on voit bien qu'il y a une personne qui exprime une douleur d'être loin de Dieu, et ce qui est intéressant, c'est que tout le vocabulaire, c'est un vocabulaire de l'émotion. Alors je ne dis pas que on doit être géré par des émotions, hein, mais on voit qu'il y avait une. C'était pas quelqu'un qui avait dit oui à une doctrine, qui servait dans le temple, c'était son boulot, et puis voilà, c'est tout, quoi. C'est quelqu'un qui connaissait la présence de Dieu dans le temple, et qui, du coup, quand il en était privé, eh ben ça, voilà, ça faisait mal, quoi. Il était loin de Dieu, et on lui dit, ben, il est où ton Dieu? Rien que ça l'attristait, ça lui faisait mal. Et tout le vocabulaire de ce psaume 42, c'est ça, c'est l'émotion, c'est le cœur qui parle, en fait. Et je me dis, et nous, comment on est? Si, comment on serait si on nous privait de la présence de Dieu? Est-ce qu'on a cette douleur-là de dire oh non, mais non, c'est ce que j'ai de plus précieux? Ou est-ce que finalement, si Dieu il s'éloigne de nous, ça fait pas la différence en fait? Et quand je dis ça, c'est vraiment l'idée de, on peut être chrétien, on peut dire voilà, je connais le Seigneur, je lui ai donné ma vie, je suis d'accord avec ce qui est écrit dans la Bible, je cherche à être une bonne personne, tout ce qu'on veut, hein. Mais le cœur, il est où en fait? Parce que tout ce qu'on dit là, je suis d'accord avec la Bible, bah c'est dans la tête, c'est là-dedans souvent. Et ça, il faut que ça redescende dans notre cœur et que on souffre de l'absence de Dieu. Si on souffre de son absence, c'est qu'on a connu sa présence et qu'on l'a connu d'une manière où c'est, voilà, c'est irréfutable en fait. On peut pas dire le contraire. Dire, ouais, j'ai dû connaître le Seigneur quand je me suis donné à lui. Bon bah voilà, forcément, je l'ai connu. Bon, là, c'est dans la tête. C'est comme la Bible me dit que si je crois en lui, je suis sauvé. Bah ouais, je suis sauvé. Je le sais dans ma tête. Mais est-ce que je le sais dans mon cœur? Est-ce que je l'ai vécu? Donc voilà. Donc le titre du. Bah, de toute façon, c'est moi qui vais l'écrire le titre. Mais le titre du message, c'est Avoir faim et soif de Dieu. Donc, basé sur ce psaume 42. On l'a déjà lu, hein, je ne vous le relis pas. Mais c'est voilà, l'idée, est-ce que j'ai faim et soif de la présence du Seigneur? Et je parle bien de la présence du Seigneur et pas de sa paix, de sa joie, de son réconfort, de ce qu'il peut amener avec lui, mais de lui-même en fait, directement. Et vous voyez que ça rejoint un peu ce qui a été, ça rejoint même complètement ce qui a été partagé par Janet avant, ce qu'il y a eu dans les chants. Et les chants, c'est pareil, quand on les voit, ça traduit quelqu'un qui a connu le Seigneur et qui parle avec son cœur en fait. J'ai envie de dire avec ses tripes et pas juste avec son cerveau qui fait un joli chant avec des belles paroles, ça rend bien quoi. On sent qu'il y a des gens qui ont vécu quelque chose avec le Seigneur. J'ai trouvé l'image peut-être un peu bizarre, hein, mais pendant les vacances, on fait beaucoup de pique-niques, hein, du coup on va marcher, on pique-nique et puis voilà, on passe la journée à l'extérieur. Et puis j'entends un des deux garçons qui dit je veux mon yaourt pendant le pique-nique. Et le deuxième qui lui répond bah viens le chercher. C'est un peu brut de fonderie, hein. Mais du coup, il y a deux solutions, hein, pour celui qui demande le yaourt. Soit il y va. Alors, si on exclut une intervention extérieure, sinon ça se complique. Mais voilà, s'il reste que ces deux personnes-là, bah soit il veut son yaourt et il se bouge les fesses, il va le chercher, hein. Il fait l'effort, il se lève. Soit il se dit, oh, finalement, je ne sais pas si ça vaut le coup de se lever, hein, d'aller faire 2 mètres en vrai et d'aller chercher mon yaourt. Bon, s'il me le ramène pas, je laisse tomber. Ah, c'est qu'un yaourt, donc voilà, on pourrait s'en passer assez facilement, hein. Mais imaginons que c'était le repas complet. J'ai faim, je veux manger. Bah, viens chercher ton repas. On est debout, on va le chercher. Normalement. Normalement. Quelqu'un qui meurt de faim, réellement. Il dit, bah, j'ai faim. Bah, viens chercher, j'ai quelque chose pour toi. Bien sûr qu'il se lève, qu'il va le chercher. Et donc la conséquence logique quand on a faim, c'est d'aller chercher la nourriture. La conséquence logique d'avoir faim du Seigneur, c'est d'aller chercher le Seigneur, d'aller chercher sa présence. On ne peut pas dire, moi j'ai faim du Seigneur, bah, mais voilà, maintenant j'attends qu'il se révèle. Après tout, je peux rien faire, moi, donc je vais attendre. Non, on n'attend pas, on y va, parce qu'on a besoin. Je vais vous le répéter, je pense, 200 fois pendant le message, mais il y a quelque chose dans le cœur qui dit, j'en ai besoin, il faut que j'y aille. Et ça passe au-delà du cerveau, en fait. Je ne dis pas qu'il faut éteindre notre cerveau et ne pas réfléchir, hein. Mais notre cerveau, il doit nous amener à aller plus loin. C'est qu'une première étape, en fait. Alors on pourrait se dire, mais c'est faux aussi, hein. Moi, j'ai connu le Seigneur, je l'ai rencontré il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, plus. Je sais pas jusqu'où on peut aller dans la salle. Et donc, bah voilà, je l'ai connu, c'est bon, j'ai plus faim, je le connais, c'est réglé. C'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible. C'est si on l'a connu, alors on a encore plus faim qu'avant. Et on est rassasié en même temps. C'est assez étrange, hein. Mais quand on connaît le Seigneur, on veut plus de lui. On veut plus de lui, et en même temps, on sait que c'est ça qui nous rassasie, c'est ça qui nous fait du bien, en fait. Et normalement, on a, j'espère pour vous, hein, mais on a cette, pour nous tous d'ailleurs, on a cette sensation quand on lit la parole. Ça nous rassasie, ça fait du bien, mais on dit, ah, j'aimerais bien avoir plus encore. Le Seigneur, il a plus que ça. Et si on a faim, on doit chercher à avoir plus. Et on doit nécessairement avoir faim si on est à lui. On ne peut pas se contenter de dire, voilà, moi c'était il y a 20 ans. C'est un peu dire que moi j'ai mangé un truc il y a 10 ans, voilà, maintenant j'ai plus faim. Maintenant, parce que la faim, elle revient en fait régulièrement. Hein. Elle finit par s'arrêter, mais elle revient après encore. Si vous jeûnez longtemps, en fait, vous avez, au bout de quelques jours, vous n'avez plus faim. Vous allez dire, ah, je m'en suis débarrassé. Oui, mais au bout d'un certain temps, elle va revenir, la faim. Et là, vous ne pourrez plus dire non. J'ai aimé ma femme, on s'est marié, voilà, il y a je ne sais plus combien, maintenant c'est bon, hein, j'ai plus besoin d'être avec elle. Non, elle n'est pas là. Ben non, bien sûr que non. Si on s'est marié, c'est parce qu'on veut rester avec elle, justement. On veut rester avec elle tout le temps. Alors, on est obligé de s'absenter. Il y a des choses dans la vie qui font qu'on n'est pas tout le temps avec elle. Mais c'est ça notre cœur, en fait. Mais on rigole, mais on fait ça avec le Seigneur un peu. Hein. Voilà, moi, j'ai connu le Seigneur. Ben ouais, voilà, c'est bon, quoi. Mais non, si on l'a connu pour du vrai, si on sait ce que c'est sa présence, alors on veut plus. On veut continuer de retourner le voir. Alors on a tendance à décrier, ouais, on va dire, à décrier l'Église catholique. C'est facile, hein, c'est un peu le voisin, c'est un peu entre les 59 et les 62, comme dans toutes les régions. Voilà, il y a plein de. Bon, c'est pas exactement ça, hein, mais on va dire voilà, on dit l'Église catholique quand même. Ils sont à côté de la plaque. Est-ce que nous, on est très différents de. Ah oui, doctrinalement parlant, rien à voir, rien à voir. Bon, on est quand même dans la même branche du christianisme, hein, mais rien à voir. Mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir tendance à avoir une religion, nous aussi? Et on fait des rites. Bon, alors, c'est pas aller à la messe, c'est aller au culte. C'est différent, hein, n'est-ce pas? Nous, on ne prie pas Marie, on ne prie que Jésus. Ouais, c'est vraiment différent. Mais est-ce qu'on peut dire, bah, moi, voilà, ça fait 20 ans que je suis au Seigneur, je vais à l'église, j'essaye d'assister aux réunions, je lis ma Bible, j'essaye de passer du temps avec le Seigneur. Voilà, bah, est-ce que c'est très différent de l'Église catholique quand on fait ça? S'il n'y a pas le Seigneur derrière qui nous motive, alors ben non, pour moi c'est pareil. C'est juste une religion un peu différente en fait, hein, avec une doctrine qui n'est pas pareille, on va dire qu'on est plus proche de la Bible. Voilà, hein, on peut trouver des raisons d'avoir raison par rapport à eux. Mais si on en revient à juste dans notre tête faire des rites, faire des choses, et qu'il n'y a pas la présence du Seigneur, on n'est pas mieux. Hein, on n'est pas mieux. Et le Seigneur, il ne se basera pas sur le fait qu'on ait une bonne doctrine pour nous sauver. Ah, toi, t'as cru à ce qui était dans la Bible, contrairement à l'autre à côté, donc toi, je vais te sauver. Non, non. Le Seigneur, il nous sauve parce qu'on le connaît. Peu importe la doctrine, en fait. Et donc, je veux nous encourager à chercher la présence du Seigneur pour pas tomber dans une, voilà, une religion évangélique où on vient au culte parce que c'est mieux que d'aller à la messe, parce qu'on essaye de prier, on essaye de venir aux réunions, de faire je sais pas trop quoi, d'être des bonnes personnes. Il y a déjà quelque chose, si on essaye, ça traduit un peu le fait que c'est nous qui travaillons, en fait. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail de notre part, qu'on ne doit rien faire. Mais l'initiative, elle est dans l'autre sens, en fait. Et je crois qu'on devrait pas chercher tant que ça à se transformer nous-mêmes, à essayer de faire mieux les choses, à prier plus. Si on... Je reprends l'image avec le fait qu'on est marié, en fait, hein. Alors, on se souvient surtout au début du mariage, mais ça prend une forme un peu différente après. Mais au tout début, avec Maï, mais on cherchait la moindre occasion d'être ensemble, en fait. Et puis, quand il faut se quitter, bah, c'est dur, quoi. Alors, la fois prochaine qu'on se voit, c'est là. Et puis, les séparations, elles prennent du temps, quoi. Parce que, bah, voilà, c'est juste la présence de l'autre qui est tellement bonne, tellement agréable. On ne se force pas à être avec l'autre. Bon. Allez, je vais essayer de passer une heure avec toi. Mais après, au bout d'une heure, zut, hein, faut que j'aille à mes activités. Non, on n'est pas comme ça. Mais avec le Seigneur, des fois, on est, allez, aujourd'hui, je vais essayer de prier une heure. Hein, mais après, il faut bien que je fasse ce que j'ai à faire, quoi. Ah bah oui, je sais bien qu'on a quelque chose à faire et on a tous quelque chose à faire dans notre journée, c'est inévitable. Mais est-ce qu'on en est là à se forcer à prier ? Je vais essayer de calmer tout le monde, moi y compris, hein, pas de souci, mais est-ce qu'on prie facilement une heure? Est-ce qu'on est une heure dans la présence du Seigneur? Même juste en fermant notre bouche, en étant avec lui. Bon, une heure, on calme déjà pas mal de gens normalement. Et 2 heures? Et 4 heures? 8 heures? J'en sais rien, autant que vous voulez. Si on n'avait pas d'activité, est-ce que ça nous dérangerait? Pas facile, hein? Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas assez la présence du Seigneur. Si on le connaissait, ça ne nous poserait aucun problème. On serait avec lui. De toute façon, ce qu'on veut, c'est être avec lui l'éternité, non? Et on a du mal à le faire 8 heures, là. Ce que le Seigneur veut, ce n'est pas qu'on pratique une bonne religion, en fait, hein, c'est qu'on le connaisse. Et c'est complètement différent. Jean 17, 3, je vous l'ai déjà cité, en fait, hein, mais, enfin, pas aujourd'hui, mais les fois d'avant. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est très très facile comme définition, hein. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est pas qu'ils aient une bonne doctrine, qu'ils aient bien compris la Bible, c'est qu'ils prient tant de temps. Il n'y a rien de tout ça, c'est juste qu'ils te connaissent. Et vous savez comme moi que le verbe connaître dans la Bible, il a toute une panoplie de significations, hein. Il va du connaître intellectuel, bien sûr, hein. Je sais que 2 plus 2 égale 4, je le connais. Jusqu'à connaître l'intimité dans le couple, en fait, entre un homme et une femme. Et connaître, dans la Bible, c'est souvent utilisé comme ça. Je ne pense pas que là, ça soit utilisé, Jésus ne l'utilise pas pour dire comme 2 et 2 égale 4, en fait, hein. Connaître, il l'utilise dans le sens le plus abouti, en fait, qu'on ne fait plus qu'un avec lui. Est-ce qu'on connaît ça? Si on ne le connaît pas, ben, on n'a pas la vie éternelle, en fait. Alors, je ne veux pas faire flipper tout le monde, hein, je ne veux pas vous avoir peur. Mais il y a un objectif qui est là-bas. Et il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif, en fait. Il ne faut pas qu'on l'oublie en cours de route, qu'on s'assoie et qu'on dise, bah voilà, moi, c'est bon, je suis dans l'église, hein, j'ai accepté le Seigneur comme sauveur, c'est bien. C'est la toute première étape, en fait. Le fait de l'accepter comme sauveur, d'être purifié de ses péchés, eh ben, ça nous donne le droit de rentrer dans sa présence et d'aller plus loin. Donc c'est que le tout début. Et nous, souvent, on s'arrête là, on se dit, bah ouais, maintenant, bon, je vais, voilà, comme je disais tout à l'heure, on va essayer de faire bien, on va essayer d'être gentil, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est lui directement. En fait, toutes les religions se plantent et sont complètement à côté de la plaque, parce que dans toutes les religions, on cherche quelque chose, en fait. On cherche, je sais pas, hein, le paradis pour certains, on cherche le fait d'être en paix, le fait d'être des gens bien, de je sais pas trop quoi. On cherche tout un tas de choses, mais jamais le Dieu lui-même, en fait, sa présence, la communion avec lui. Et c'est ça qui différencie, en fait, et c'est ça qu'on veut prêcher ici. Je vais parler tout seul, mais les autres anciens, ils sont tout à fait d'accord. On ne veut pas prêcher une religion, on peut prêcher une doctrine, des choses bien ou pas bien. On veut juste prêcher le Seigneur Jésus et le connaître. Mais le connaître dans le sens le plus abouti, en fait. Le connaître comme on connaît son épouse ou son époux. Non, on ne fait plus qu'un seul avec lui. Le connaître comme ça peut pas s'apprendre dans un livre. Ça peut pas, on peut pas juste lire suffisamment la Bible, la lire très 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 souvent, et dire voilà, maintenant je connais Dieu parce que je, même celui qui connaît la Bible par cœur, hein, s'il y en a un qui y arrive, il connaît pas Dieu. Il connaît pas Dieu. Il connaît des choses sur Dieu, mais il connaît pas Dieu lui-même, en fait. La Bible, c'est qu'un outil pour nous amener dans sa présence. J'aurais pu lire autant de livres que je voulais sur Maï, j'aurais pas pu la connaître, en fait, comme ça. J'aurais eu pas mal d'infos sur elle. J'essaye de pas faire de blagues. J'aurais eu pas mal d'infos sur elle, mais il y a plein de choses que j'aurais découvert en vivant, que je découvre en vivant avec elle. Parce qu'il faut vivre avec les personnes. Il faut être en permanence avec elles. Et voilà, on parle avec elles, on échange sur un tas de sujets, on vit avec elles, on voit ses réactions, et c'est comme ça qu'on la connaît. Et après X années, on ne peut pas encore dire qu'on la connaît par cœur, hein. Mais tout doucement, avec le temps, on commence à dire, ah là, elle va réagir comme ça. On commence à s'amuser avec les enfants parce qu'eux aussi, ils repèrent les trucs. Alors, c'est souvent dans l'autre sens parce qu'il y en a un des deux qui est plus blagueur que l'autre dans les parents. Mais je peux me retourner vers Raphaël, dire, regarde, là, maman, elle va poser ça comme question, elle va dire ça. Paf, ça rate pas. Pourquoi? Parce que je la connais, je sais très bien comment elle réagit. Et c'est probablement la même chose pour elle, c'est juste qu'elle est un peu plus discrète, moins blagueuse. Mais voilà. Et avec le Seigneur, ça doit être comme ça. C'est ça la connaissance du Seigneur. C'est j'échange tellement avec lui, je passe tellement de temps avec lui, que je sais comment réagit. Et j'ai pas besoin en permanence de lui dire c'est quoi ta volonté là-dessus? C'est quoi là? Mais non, parce que je le connais. Ah, là, je sais très bien comment il va réagir. Alors, il fait des surprises, le Seigneur, hein, parce qu'il y a des plans qui vont beaucoup plus loin que ce que nous, on comprend et ce qu'on sait. Mais quand même, dans plein de circonstances, on saura par défaut ce qu'il va penser, en fait, le Seigneur. Donc, du coup, connaître le Seigneur, ça ne s'apprend pas dans les livres, c'est du temps à passer avec lui. Ce n'est pas un apprentissage scolaire. Limite, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On peut arriver à l'inculquer un petit peu, hein, quelque part. C'est un peu ce qu'on fait avec nos enfants. Quand c'est bien, on récompense. Quand c'est pas bien, on punit. Puis il y a une forme de conditionnement qui fait que voilà, on sait ce qui est bien, ce qui est pas bien. On dit aux enfants aussi. C'est pas juste un conditionnement. On leur explique ça, c'est bien parce que ça, c'est pas bien parce que ça, voilà, ça se fait comme ça. Mais il y a quelque chose d'irremplaçable à sa présence. Des choses qu'on peut pas apprendre si on n'est pas dans sa présence. Et je vous cite juste 2 Corinthiens 3, vous allez peut-être me dire c'est quoi le rapport, mais jusqu'à ce jour, 2 Corinthiens 3, versets 15 à 18. Quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Comme par le Seigneur l'Esprit, comme par l'Esprit du Seigneur. Il y a quelques variations sur les traductions de ce verset-là. Globalement, ça se dit quoi? C'est que quand on se tourne vers le Seigneur, le voile, il est ôté. Et on peut enfin le voir pour du vrai. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est que quand on se convertit, quand on lui donne sa vie, eh ben, il y a un voile qui tombe de nos yeux et on peut comprendre les choses du Seigneur. On peut s'approcher de lui. Et c'est ça qui nous transforme. Puis ça qui dit. Il dit on contemple le Seigneur, le visage découvert. Alors c'est encore comme dans un miroir, parce qu'on ne le voit pas directement devant nous. Il y a encore des choses qui ne sont pas parfaites. Et c'est là où on est transformé à son image. On est transformé au fur et à mesure qu'on est devant lui. C'est pour ça aussi que cette histoire avec Marie et Marthe, elle est importante en fait. Marthe, elle faisait plein de choses. C'était pas mal en soi. Mais le Seigneur, il dit, la meilleure part, c'est celle de Marie. C'est juste d'être là et d'écouter le Seigneur, de le contempler. Et d'être dans sa présence, ça va nous transformer. Alors, à mon habitude, je ne pourrais pas tout caser dans ce message-là aujourd'hui. Donc, il y aura une suite après. Mais je vais juste mentionner le Moïse, en fait. Hein. C'est évident parce que il a été dans la présence de Dieu et il était marqué par ça. Et il y retournait régulièrement. Voilà, il y avait la nuée qui descendait en même temps qu'il était dans la tente d'assignation. Et il était juste avec le Seigneur pendant on ne sait pas combien de temps. Quand il sortait, son visage, il rayonnait de la présence du Seigneur. Ce n'était pas lui qui avait essayé de faire quelque chose pour rayonner. Hein, c'est pas possible. Peut-être qu'à notre époque, on peut faire des trucs bizarres maintenant. Mais à l'époque, on ne faisait pas ça. Il était juste transformé en étant auprès du Seigneur. Et on peut faire tous les efforts qu'on veut, on n'arrivera pas à ce que le Seigneur veut. Le seul moyen d'arriver au standard du Seigneur, c'est d'être dans sa présence et de se laisser transformer, avant de faire quoi que ce soit. Alors ça fait référence aussi, ce passage-là, au voile qu'il y avait dans le temple. Hein. C'est là exactement la même chose. Quand Jésus, il est mort, le voile, il s'est déchiré. Et c'est-à-dire que le lieu très saint, il était accessible, il était enfin accessible. Et le lieu très saint, c'est quoi? C'est là où il y a la présence de Dieu. Donc c'est vraiment tout l'objectif de la parole, c'est de nous amener dans la présence du Seigneur. Si on veut encore suivre des lois, si on veut encore suivre des commandements, dire moi je fais ce qui est bien, je fais pas ci, je fais pas ça, on est encore avec un voile en fait. Hein. C'est un peu comme les Juifs finalement qui ont encore un voile et qui ne peuvent pas voir les choses du Seigneur. Et la loi était bonne. Alors ça, c'était ce que disait Paul la semaine dernière. Je me suis dit, mince, l'idée va quand même relativement dans le même sens, mais tant pis, ce sera pris sous un aspect un peu différent. Mais la loi, elle était bonne. Simplement, il y avait un voile qui faisait que les gens appliquaient la loi, on va dire bêtement, hein, l'appliquaient et ne voyaient pas qui était derrière la loi, quel était l'esprit qui était derrière la loi. Et donc, il a fallu l'esprit de liberté, l'esprit du Seigneur, pour aller plus loin que ça. Et cet esprit, il vient quand le voile, il est ôté. Alors, si on est honnête, c'est pas ça 100% qu'on vit, n'est-ce pas? Alors, chacun un petit pourcentage, hein, je ne veux pas savoir, et je ne vous dirai pas le mien. Mais je sais que j'ai encore du chemin à faire aussi, moi aussi. Je vous dis, hein, toutes ces choses-là, ça me travaille moi. Je suis le premier concerné, en fait, mais je suis pas le seul. Et il nous manque quelque chose du Seigneur, je pense, et il faut qu'on le recherche. Il faut qu'on ait faim et soif de plus du Seigneur. Si vous voulez retenir une seule chose ce matin, c'est ça en fait. C'est il nous faut plus du Seigneur. Et même si on l'a déjà connu, même si on connaît sa présence, même si vous pouvez passer 4 heures à le prier, 4 heures muets devant lui, eh bien il y a plus encore à avoir. Il y a encore plus. Donc si vous n'êtes pas aux 4 heures comme moi, eh bien il y a plus. Il y a plus, c'est sûr. C'est la différence en fait entre ce qu'on prêche. Et les différentes religions qui existent, hein. Quelque part le catholique, je veux dire lambda, hein, de tradition, il s'assoit dans l'église, il fait les rites, il fait voilà, petite communion, grande communion, enfin tous les trucs que je connais pas très bien, ce que j'ai pas fait, mais il effectue les rites. Et puis je pense que le catholique lambda, je vous explique pourquoi je dis lambda, hein, il connaît pas Dieu, il s'en fiche de Dieu en fait, hein, il fait les choses parce que il faut faire ça, c'est tout. Je dis lambda parce que je pense réellement que le Seigneur il travaille dans certaines églises et qu'il y a des catholiques qui connaissent vraiment le Seigneur. Et du coup, c'est différent. Donc, je veux vraiment faire une exception parce que il y a des catholiques qui ont un cœur pour le Seigneur. Il y a des choses qui se réveillent et ça pourrait être un joli pied de nez du Seigneur de passer par l'Église catholique pendant que les évangéliques s'endorment et tournent dans la doctrine, dans les choses qui sont bien, dans la religion. Le musulman, il cherche la faveur d'Allah. Mais est-ce qu'il veut être avec lui? Non. Allah, il est trop saint, il peut même pas être avec lui. Ce qu'il veut, c'est le paradis avec tout ce qu'il peut y avoir dedans. Je pensais même aux témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah, ils aimeraient faire partie des 144 000. Mais bon, depuis le temps, 144 000, le niveau est atteint. Donc ils veulent juste faire partie de la foule. Et juste bénéficier d'une nouvelle terre où tout sera beau, tout sera bien, et voilà, tout le monde sera gentil. Mais quand vous discutez avec eux, j'en ai attrapé plusieurs à la porte, maintenant ils viennent plus, hein, ils veulent plus. Mais ils ne cherchent pas le Seigneur lui-même, en fait, ça ne les intéresse pas. Est-ce que nous, qu'est-ce qu'on cherche du Seigneur, en fait? Est-ce qu'on cherche sa paix, sa joie? Est-ce qu'on cherche la sagesse qu'il peut donner? On peut trouver un tas de choses en fait, hein. Ou est-ce que c'est lui directement qu'on cherche? C'est ça qui est différent en fait. Au risque de paraître lourd, hein, je répète une nouvelle fois que ce n'est pas simplement avoir une opinion juste sur Dieu. Ce n'est pas le connaître dans les livres, ce n'est pas dire voilà, moi, 100% doctrinalement parlant, je suis nickel. Celui qui sait dire ça déjà, il est pas mal, hein, parce que des doctrines, il y en a un bon paquet, et je pense qu'on en invente au fur et à mesure. Mais il s'agit d'avoir une communion personnelle avec Dieu. Et quand. J'ai plus le titre, j'ai plus l'auteur, donc j'ai plus beaucoup de détails, mais j'avais des petits livrets édités par Porte Ouverte, en fait. Et dans ce livre, je sais même plus de quoi ça traitait, mais j'ai retenu un truc, c'est qu'on idéalise souvent les chrétiens persécutés. Pour nous, chrétiens persécutés, comme ils sont persécutés pour leur foi, ils sont top moumoute en fait pour le Seigneur. Hein. Ils sont super bons dans tous les trucs, voilà. Et en fait, non. Il y en a, ils sont mais complètement à côté de la plaque sur certaines doctrines. Et on pourrait dire que c'est des doctrines super importantes, mais minces. Mais ils tiennent dans la persécution. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le Seigneur, parce qu'ils ont connu sa présence, et que ce n'est pas la doctrine qui est importante. Alors bien sûr, quand il y a des choses vraiment importantes, mais aux yeux du Seigneur, il va les corriger, c'est pas un problème, il va les rectifier. Mais la doctrine, c'est un point secondaire. C'est pas l'idée de dire n'importe quoi, hein, je me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais le point principal, c'est de connaître Dieu. Et quand on le connaît, on peut passer à travers de tout, en fait. Et nous, on se demande, mince, quand il y aura la persécution, est-ce qu'on va tenir? Alors personne ne peut le dire à l'avance. Mais si on connaît le Seigneur, alors on passera au travers. C'est sûr et certain. On peut le formuler comme ça, hein. C'est pas la doctrine qui nous permet de tenir bon pour le Seigneur. C'est pas ce qui est dans notre tête, en fait, hein. Du jour au lendemain, on peut essayer de nous faire tourner les idées un peu différentes. Ah mince, est-ce que j'avais vraiment pensé ça comme ça? Ah ouais, ils ont peut-être raison. Et puis on peut partir en vrille. Mais si le cœur il est accroché au Seigneur, si on l'a connu. Alors on ne pourra pas dériver en fait. Si du jour au lendemain on essaie de me faire croire que Maï a jamais existé, je sais très bien que je la connais. Elle existe, j'ai plein de preuves à la maison. Je ne peux pas m'en empêcher. La semaine dernière, il y a eu Paul qui était cité dans une prière. Il nous liste ses souffrances. Alors voilà, j'ai pas retrouvé le livre de Porte Ouverte. Je dis, tiens, on va citer le cas de Paul. C'est un peu long, mais voilà, ça nous montre où est la barre, quelque part. Voilà, donc c'est encore un gros pavé, hein, donc pas bien pour les diapos, mais tant pis. Dans 2 Corinthiens 11, versets 22 à 30. Il parle donc de détracteurs, hein, et de gens qui disaient, lui, il n'est pas vraiment apôtre. Et il dit, sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui est extravagant. Donc il dit, en gros, je parle comme eux, hein, je pars un peu en délire, mais vu qu'ils veulent jouer comme ça, on va jouer comme ça. C'est une traduction moderne à la moi, mais... Je le suis bien plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Enfin, c'est vrai que ça part, moi aussi je suis comme si, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi j'ai subi ça, 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 ça. Et à la fin, tout ça, en fait, il n'en tient pas compte. Il dit, c'est pour parler comme eux. Et si je dois me glorifier de quelque chose, c'est de ma faiblesse. Mais comment il a tenu, Paul? Pas parce qu'il avait une bonne doctrine. Pourtant, il en a écrit des bonnes choses, hein, c'est pas le problème. Parce qu'il avait rencontré le Seigneur. Vous savez, sur le chemin de Damas, on ne refait pas toute l'histoire. Hein. Sur le chemin de Damas, il a un aveuglement, il entend une voix, et là, il a réellement rencontré le Seigneur. Et ça, il n'a jamais pu le nier. Ça a transformé toute sa vie. Et après, on sait qu'il est parti en Arabie, on ne sait pas ce qu'il y a fait. Il est parti pendant 3 ans, il nous dit, après, je reviens à Damas. Donc, je suis quasiment sûr que pendant ces 3 ans qu'il a passé à l'écart, il était dans la présence du Seigneur. Et c'est là où il a été transformé, en fait. Il y a eu un premier coup quand il est tombé du cheval, qui était aveuglé. Il y a eu ces 3 jours derrière où ça a dû tourner, mais après c'est rentré là-dedans, parce qu'il a vécu avec le Seigneur, parce qu'il était dans sa présence. Et après, il peut subir tout ce qu'il veut, toutes ces choses qu'il liste là. C'est plus un problème, en fait. Alors, c'est pas qu'il souffre pas, hein, c'est pas qu'il ressent pas, mais il a connu le Seigneur, il n'y a plus rien qui peut le dériver de ça, qui peut le dévier de ça, pardon. C'est ça qu'il nous faut. C'est connaître le Seigneur au point où il nous transforme et où il n'y a plus rien qui peut nous dévier de la trajectoire. Donc voilà, c'est juste aller plus loin que ce qui est dans notre tête en fait. Hein. Si je résume, il faut vraiment qu'il y ait une expérience concrète, personnelle avec le Seigneur et que ça ne reste pas dans notre tête, des pensées, des doctrines, tout ce que vous voulez. Je ne dis pas qu'il faut rejeter tout ce qu'on a connu du Seigneur non plus. Je peux me dire, attention, vous allez tous ressortir en larmes derrière en disant, bah, en fait, il n'y a personne de chrétien. C'est pas le cas. On a connu le Seigneur, on s'est donné à lui, on lui a dit, je reconnais mes péchés et on avance avec lui. Mais je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup plus, en fait, et on se limite. La conversion, c'est la toute première étape, toute, toute première étape. Elle est toute petite dans la vie avec le Seigneur. Hein. Dans la plupart des témoignages qu'on lit, en fait, la conversion, c'est quelques pages, en fait. Hein. Des fois, on explique un peu avant comment on en est arrivé là. La conversion, c'est assez, voilà, assez radical. Je pense aussi à ce Rhys Owens, là. Il y a une conversion, il s'étale pas là-dessus, en fait. Hein. Il y a quelques pages, et puis c'est réglé, c'est tout. Il s'est donné au Seigneur. Mais après... Après, bah, il y a des centaines de pages dans le bouquin expliquant comment le Seigneur, il le purifie, comment il le transforme, et pourquoi ça? Parce qu'il passait du temps avec le Seigneur, qu'il priait le Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur l'a transformé, et un peu comme bah, cette image hein, du métal qu'on met dans le feu et qui est purifié, et le Seigneur, il enlève tout ce qui ne correspond pas, tout ce qui n'est pas de lui, et il met sa présence à lui, il met son esprit de plus en plus fort. C'est de ça qu'on a besoin. La foi en Dieu, c'est quoi? C'est la confiance en fait, hein, la foi. Alors, la foi, la fidélité, c'est le même mot hein, dans le Nouveau Testament, mais la foi, c'est aussi la confiance en Dieu. J'ai foi dans les promesses de Dieu, j'ai confiance dans ses promesses. Mais comment on peut avoir confiance dans quelqu'un qu'on ne connaît pas? Alors si on nous a dit beaucoup de bien de cette personne, bon, bah, on va le faire quand même, quoi. On se dit, allez, je vais lui faire confiance. Après tout, on m'a dit tellement de bien. Vous voyez que c'est une confiance qui est quand même plutôt limitée, hein. Mais quand on connaît la personne, on peut lui faire confiance, les yeux fermés. Je sais que je peux, je sais pas, j'ai pas d'exemple précis sur le là, mais j'aurais quelque chose d'extrêmement périlleux, de très précieux à confier. Je sais que je peux le confier à Maï, les yeux fermés, parce qu'elle va faire attention, je la connais. Mais si on me disait quelqu'un d'autre, même quelqu'un dans cette salle, bah ouais, on m'a dit du bien, mais je sais pas, moi je le connais pas suffisamment. Je peux vous décevoir, hein, mais. L'idée, c'est pas juste que je vous fais pas confiance, c'est que je fais plus confiance à Maï parce que je la connais en fait. Et donc la confiance, elle est proportionnelle à la connaissance qu'on a des gens. Donc si on ne connaît pas assez le Seigneur, notre confiance, elle est toute petite. Mais au plus on va le connaître, au plus on pourra le faire confiance. Jean 4, versets 39 à 42, c'est la Samaritaine. Alors on connaît bien le début de l'histoire, hein, mais j'ai juste pris les derniers versets qui sont intéressants. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Vous voyez que le témoignage, il a une importance en fait, hein. Je ne suis pas en train de vous dire tout ce que les autres peuvent vous dire sur Dieu, ça ne sert à rien. Au contraire. Mais ça amène à Dieu en fait. Ça amène quoi? Bah, ces gens-là, ils ont entendu. La Samaritaine qui disait, bah moi, j'ai vu un monsieur là, c'est le Messie parce qu'il m'a dit ça, ça et ça. Et bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été constatés, ils ont été vérifiés, ils ont cherché. Parce que cette petite phrase de la Samaritaine, ça a donné faim. Et donc, ils sont allés eux-mêmes constater. Et quand ils reviennent, ils aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Donc, vous voyez, il passe du temps avec eux. Un beaucoup plus grand nombre crurent à sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Je l'ai constaté moi-même de mes propres yeux, je l'ai écouté avec mes propres oreilles. Maintenant je le sais. C'est exactement ça qui se passe pour les Samaritains. Donc vous voyez, la Bible, c'est très très bien. Ça nous amène au Seigneur. Ce que les autres nous disent, ce qu'on peut prêcher ici même, c'est juste un outil pour nous amener auprès du Seigneur. Et après, c'est à nous à faire cette démarche de dire, bah ouais, ça me titille, ça me donne faim et je veux plus de ça. Et là, on va au Seigneur directement. On dit, Seigneur, je veux goûter ta présence. Je vous ai déjà dit ça aussi, je pense. Hein, c'était là, comme je travaille dans l'informatique, j'aime bien me former à plein de trucs, en fait. Hein, je suis assez curieux, et puis je me dis, ça peut toujours servir. Donc des fois, la formation, ça se limite à quelques vidéos. Je vois quelques vidéos sur un sujet, et puis voilà, je me dis, ça fait toujours des infos. J'avais voulu apprendre un langage de développement, donc je passais un paquet de vidéos. Hein, là, quand c'est comme ça, c'est une formation, et ça dure plusieurs heures. On finit la formation, et quand on finit, on se dit, ah! Nickel, maintenant là c'est pas mal, j'ai bien appris, je suis content de moi et puis j'ai bien compris les choses. Puis vous ouvrez l'outil qui sert à écrire votre code et puis je sais même plus comment je commence. Vous écrivez quelques lignes, ça plante toujours l'informatique. Et puis oh, j'ai pas vu ça en formation, mince, pourquoi ça marche pas là? Je pensais que j'avais fait la même chose là. Ah, puis zut, puis ça vient avec les mois, avec les années de pratique en fait, hein. On ne peut pas apprendre le Seigneur dans un livre. On ne peut pas faire une formation sur le Seigneur en 10 heures, 20 heures, 40 heures, peu importe le nombre d'heures que vous mettez. Hein. On n'aura pas connu le Seigneur, même en suivant cette formation-là. Il faut le pratiquer, en fait, le Seigneur. Il faut le vivre, il faut être avec lui, échanger avec lui. Il va nous corriger, il va dire ça c'est bien. Voilà, il y a des choses, des fois, il le conserve, mais il le transforme dans sa nature quand même. Et c'est ça qui nous apprend le Seigneur, en fait. C'est pas une vidéo de formation. Colossiens 3, c'était cité la semaine dernière aussi. C'est rigolo parce que j'avais déjà tout ça en tête et la semaine dernière, il y avait des prières, des choses qui étaient dites et je dis, ah, c'est intéressant. Bon, je vais le récupérer aussi parce que ça devient tellement bien dans le sujet. Donc Colossiens 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc si vous êtes ressuscité, cherchez les choses d'en haut. Quand on est ressuscité, quand on a la nouvelle vie que le Seigneur nous donne, c'est une logique implacable que de chercher les choses du Seigneur, que de chercher sa présence. Et j'aime bien ce « affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Il y a un amour à avoir pour les choses d'en haut et un amour qu'on travaille, comme dans le mariage en fait. Hein. C'est pas naturel, ça ne tombe pas dessus comme ça. Et puis voilà, bah cool, on a eu du bol, on va s'aimer toute la vie. Ou bah non, pas de bol, on va se séparer. Il y a un travail à faire en fait. Et le Seigneur, c'est pareil, il y a un travail à faire avec lui pour persévérer dans l'amour et pas le lâcher. Mais lui, il fera le travail, ça, il n'y a aucun problème. Lui, il ne nous lâchera pas. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Je pense que j'étais assez lourdingue dans ma manière de le dire, mais c'est comme ça, c'est répétitif, c'est plein d'images. C'est peut-être pas beaucoup de versets, vous voulez me dire, mais voilà, c'est le cœur de la parole. On verra plein d'autres exemples hein, quand on voit la vie d'Abraham, qui était l'ami de Dieu, le temps qu'il passait avec Dieu. Quand on voit Moïse, c'est incroyable, incroyable. Il passait ce temps avec Dieu dans la tente d'assignation. Et c'est quoi la conséquence de ça? Fais-moi voir ta gloire, plus, 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 Seigneur. Ça, je dis, on peut pas se limiter et dire, moi, c'est bon, je fais ma petite marche avec le Seigneur. C'est pas possible. Même Moïse, pourtant, il est connu le Seigneur d'une manière qui est incroyable. Il veut plus du Seigneur. La première étape, c'est de se rendre compte qu'on n'a pas faim et qu'on n'a pas soif. Si on n'a pas faim et si on n'a pas soif, bien sûr. Si on a faim et soif, alors on sait qu'on doit le chercher, hein, c'est inévitable. Mais si on n'a pas faim et soif du Seigneur, alors il faut s'en rendre compte, il faut dire, c'est vrai. Je rate quelque chose. Et c'est un peu ce qu'a fait ce témoignage, en fait, hein, de Rhys Owens. Je suis désolé, ça revient tout le temps là-dessus, mais ça m'a vraiment marqué à vie. De dire, mais il y a plus, quoi. Il y a plus, je rate quelque chose avec le Seigneur et je veux connaître ça. C'est pas réservé aux grands hommes de Dieu, c'est pas réservé à une élite. C'est ce que le Seigneur, il veut pour tout le monde. La vie éternelle, elle n'est pas réservée aux grands hommes de Dieu, à une élite. Elle est pour tout le monde. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Il n'y a pas, hein. Donc la fois prochaine, j'espère faire un petit tour de certains hommes de Dieu et vous montrer que c'est leur vie, en fait. C'est ça, leur vie. Ils se sont tournés vers le Seigneur et ils ont passé du temps avec lui. Ils avaient faim et soif de plus de lui. Et ils ont eu plus et ils ont continué. Il y a tous les exemples dans la Bible, c'est ça, en fait, hein, un peu de choses près. Alors, j'ai eu du mal à trouver quelque chose pour clôturer, parce que j'avais trop de trucs pour clôturer. Et c'est parce qu'il y a une suite, quoi. J'ai voulu reprendre Osée. Manu Moraviec, il a prêché là-dessus en début d'année, au mois de mars, hein, je crois. Il a prêché sur Osée, chapitre 6, verset 3. Et je veux juste relire les deux versets juste avant. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Si on a faim et soif de lui, alors ça, à la fin, ça va se terminer par sa présence dans notre vie. C'est inévitable. Il y a des étapes, des fois, il y a un travail qui est à faire. Mais ça mène au Seigneur. Donc il faut qu'on ait faim et soif de lui. On doit avoir faim et soif de lui. C'est voilà. Si on n'a pas faim et soif de lui, il faut réclamer ça au Seigneur. Alors, je vous ai dit, il y avait un peu du livre que j'avais lu pendant les vacances qui était là-dedans. Et il y a une prière qui termine, je crois, l'un des tout premiers, soit le premier, soit le deuxième chapitre. Et qui est juste... Enfin, voilà, je peux pas la reformuler. Je me suis dit, tant pis, je la lis telle qu'elle, parce que je ferai pas mieux que l'auteur. Il a vraiment les bons mots et je, voilà. Donc, je vous la lis une première fois, à vitesse normale, vite comme je parle, hein, et je la lirai une deuxième fois, un peu plus lentement, comme ça, si dans votre cœur, vous voulez la lire aussi, ça vous laisse le temps de me suivre et de le dire comme une prière dans votre cœur. Vous n'êtes pas obligé de le dire à voix haute, hein. Moi, forcément, au micro, je n'ai pas le choix. Mais c'est ma prière, il n'y a pas de souci. Je l'ai laissé pas beau comme ça en une diapo, parce que sinon, ça fait passer la diapo. Là, au moins, tout est là. Et si vous voulez prier, c'est affiché. Ô Dieu, j'ai goûté ta bonté, et cela m'a satisfait et m'a donné plus soif. Je suis douloureusement conscient de mon besoin de plus de grâce. J'ai honte de mon manque de désir. Ô Dieu, le Dieu Trinité, je veux te vouloir. J'ai envie d'être rempli de nostalgie. J'ai soif d'être encore plus assoiffé. Montre-moi ta gloire, je te prie, afin de te connaître vraiment. Commence par miséricorde un nouveau travail d'amour en moi. Dis à mon âme, lève-toi, mon amour, ma belle, et sors. Alors donne-moi la grâce de me lever et de te suivre de cette plaine brumeuse où j'ai erré si longtemps. Au nom de Jésus, amen. Ô Dieu, j'ai goûté ta bonté et cela m'a satisfait et m'a donné plus soif. Je suis douloureusement conscient de mon besoin de plus de grâce. J'ai honte de mon manque de désir. Ô Dieu, le Dieu Trinité, je veux te vouloir. J'ai envie d'être rempli de nostalgie. J'ai soif d'être encore plus assoiffé. Montre-moi ta gloire, je te prie, afin de te connaître vraiment. Commence par miséricorde un nouveau travail d'amour en moi. Dis à mon âme, lève-toi, mon amour, ma belle, et sors. Alors donne-moi la grâce de me lever et de te suivre de cette plaine brumeuse où j'ai erré si longtemps. Au nom de Jésus, amen. Peut-être juste laisser 2-3 minutes pour prier, puis après je reviendrai pour clôturer.